Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à notre radio web et bienvenue pour cette nouvelle édition des Grands Entretiens. Elle a été la femme la plus puissante depuis la fondation de Rome jusqu'au début du IIIe siècle. Considérée comme une criminelle sensuelle, une femme froide, une mère indigne, mais surtout comme une femme politique redoutable, calculatrice et manipulatrice, à côté de laquelle le prince de Machiavel fait figure de débutant. Bref, un personnage à la réputation des plus sombres et pourtant, l'historiographie contemporaine commence non pas à la réhabiliter, mais à lui donner une image plus conforme à sa réalité. Cette femme avait un nom, il s'agit d'Agrippine, Agrippine la jeune, Agrippine qui était la fille de l'empereur Germanicus et la mère d'un autre empereur, Néron, à la réputation tout aussi sulfureuse. Storia Voce vous propose de sortir de la légende, ou plutôt des légendes qui, au fil des siècles, se sont construites autour d'elle, et pour ce faire, je suis très heureux de recevoir au micro de Storia Voce Virginie Giraud. Virginie Giraud, bonjour.
Bonjour Christophe.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes l'auteur d'une biographie d'Agrippine, Sexe, crime et pouvoir dans la Rome impériale, un ouvrage paru chez Talendier. Vous êtes donc spécialiste d'histoire antique. Vous avez travaillé avec un des professeurs que l'on a reçu à plusieurs reprises sur l'antenne de Storia Voce, puisqu'il s'agit de Yann Le Boeck. Et vous avez travaillé, alors est-ce que l'on peut qualifier cela d'histoire sociologique? Vous avez travaillé sur les femmes et le sexe dans la Rome antique, qui a donné lieu à un ouvrage également paru chez Talendier et qui va être réédité au mois d'avril, donc 2017, cette année, dans la collection Texto, la collection de poche. Alors ma première question, Virginie Giraud, est assez simple. Comment en êtes-vous arrivée à étudier ce personnage qui est absolument fascinant, et d'ailleurs d'où vient cette fascination dans l'histoire ?
Ma fascination pour l'histoire ancienne remonte à mon adolescence, où je me suis aperçue que je regardais tous les documentaires sur l'Antiquité romaine, je jouais à des jeux vidéo sur l'Antiquité romaine, Je me suis dit que c'est assez inhabituel, mais c'est vrai. Et je me suis donc dit que c'était peut-être ça ma passion et ça que j'avais envie d'étudier. Et c'est ainsi que j'ai commencé mes études d'histoire, avec l'idée d'aller jusqu'en doctorat et de connaître cette civilisation qui me passionnait.
Et alors pourquoi Agrippine ?
Agrippine aussi.
C'est dans la continuité de vos travaux sur les femmes dans la Rome antique ?
Alors j'ai rencontré Agrippine il y a très longtemps et de manière totalement fortuite dans un documentaire sur Arte. Je me souviens d'une scène où il y avait une femme dans une espèce de geôle sombre qui commandait un poison à une empoisonneuse. Cette scène m'est restée en tête, elle m'a fascinée et j'ai compris quelques années plus tard qu'en fait il s'agissait d'Agrippine la jeune commandant un poison à Locuste pour empoisonner son mari l'empereur Claude. Et je crois qu'à partir de là, cette femme, son besoin de pouvoir m'a toujours fascinée. Et lorsque j'ai fait mon master en histoire, j'ai travaillé sur la dynastie des Julio-Claudiens. J'ai commencé à prendre davantage contact avec cette dynastie qui m'a paru de plus en plus passionnante, notamment avec ces femmes de tête, ces femmes de pouvoir que l'on rencontre assez peu finalement dans l'histoire romaine. Cette dynastie est assez exceptionnelle par le nombre de femmes puissantes qu'elle a proposées. Et donc Agrippine s'est imposée depuis très longtemps, une envie de l'étudier, de mieux la connaître, une envie que j'ai depuis le master, donc j'ai d'abord fait ma thèse, avec l'idée ensuite d'écrire cette biographie d'Agrippine, et peut-être un jour un roman sur Agrippine, qui sait. C'est un personnage que je trouve absolument fascinant, et aujourd'hui je considère quasiment les Julio-Claudiens comme ma seconde famille, tellement j'ai passé de temps avec eux, d'années à les étudier.
Alors vous êtes la première historienne que je reçois au micro de Storia Voce, qui m'évoque la volonté d'écrire un roman sur un personnage historique.
Eh bien, je crois que j'ai toujours voulu être romancière et que pour me former, l'histoire m'a paru être une très bonne idée. Donc pour le moment, je continue à me nourrir, à faire de l'histoire, à faire des biographies, mais un jour, je pense que je franchirai le pas, oui. Oui.
C'est une femme de passion, Agrippine.
Ah, c'est une véritable passionnée du pouvoir, oui, effectivement.
Alors, on va rentrer peu à peu dans cette histoire qui est absolument fascinante, mais vous l'avez dit, hein, il y a cette dynastie, on ne peut pas comprendre Agrippine sans voir le fait qu'elle est l'arrière-petite-fille d'Auguste.
Totalement. Agrippine appartient à une famille qui est la famille la plus noble de toute l'Antiquité romaine. Par sa mère, elle descend d'Auguste. Donc sa mère, Agrippine l'Ancienne, est la petite-fille d'Auguste et de plus sa petite-fille préférée. Donc elle a déjà un lignage par sa mère qui est assez exceptionnel. Par son père, elle a un lignage qui est tout aussi fantastique puisqu'elle descend de l'impératrice Livie, la femme d'Auguste, mais également de Marc-Antoine. Donc elle concentre dans ses veines le sang le plus noble de l'Antiquité et elle en est consciente. Elle a été élevée dans l'idée que personne mieux que les gens de sa famille sont habilités à régner, à gouverner Rome. Sauf que malheureusement, elle est une femme, qu'elle est extrêmement intelligente, qu'elle est passionnée par le pouvoir, comme nous l'avons dit tout à l'heure, mais elle ne peut pas régner elle-même. Donc, il faudra qu'elle le fasse à travers les hommes.
Alors, on va y revenir, mais avant, je souhaite m'attacher à cette famille. Vous montrez bien qu'il y a une sorte de, je vais pas dire de tradition de féminité ou de féminisme, ce qui serait un anachronisme, mais il y a à la fois le personnage de Livie et à la fois le personnage de Cléopâtre qui, dans les ascendances, marque assez logiquement l'histoire de cette femme, Agrippine.
Totalement. Tacite, l'historien, nous raconte que Agrippine voulait dépasser sa grand-mère, son arrière-grand-mère Livie. Et il est possible que cet était un but pour elle, en effet. Il faut bien comprendre que la dynastie des Julio-Claudiens manquait d'hommes. À chaque fois qu'il a fallu transmettre le pouvoir à un héritier, la question du choix de l'héritier s'est posée, puisqu'il n'y avait jamais d'enfant en ligne directe pour pouvoir reprendre le pouvoir. Donc cela laissait une certaine liberté aux femmes pour essayer de pousser sur le devant de la scène leur candidat préféré. Alors certaines des femmes de la famille ont essayé de favoriser leurs amants. C'était le cas notamment de Julie, la fille d'Auguste, qui a tenté un coup d'état contre son propre père en faveur de son amant. Ça a très mal tourné, l'amant, qui était un fils d'ailleurs de Marc-Antoine, a été tué et Julie, elle, a été exilée par son propre père. Livie, elle, a été un peu plus maligne, si l'on peut dire. Elle avait deux fils nés d'un précédent mariage et elle a choisi de pousser son fils pour qu'il devienne le successeur d'Auguste. Auguste avait choisi d'autres candidats avant Tibère. Ils sont tous morts un peu trop jeunes, ce qui a laissé la voie libre à Tibère, finalement. Et Livie était totalement heureuse, puisqu'elle savait qu'elle allait conserver sa place de première dame de l'Empire, en passant de femme d'empereur à mère d'empereur. Agrippine, enfant, observe tout ce petit manège. Il faut imaginer qu'elle grandit dans une famille extrêmement toxique où tout le monde veut le pouvoir, ce qui est assez terrible parce que forcément, cela veut dire que chacun dans sa famille est un potentiel ennemi. On imagine un petit peu que ça peut forger le caractère de n'avoir que des ennemis autour de soi. Donc elle comprend très vite, en observant sa mère, en observant sa grand-mère, qu'elle a tout intérêt à propulser un jour son fils au pouvoir si elle veut avoir un véritable poids dans la politique. Évidemment, dès lors qu'elle va être mère d'un garçon,
Néron,
le futur Néron, Je pense qu'elle envisage immédiatement, dès qu'elle connaît le sexe de son enfant, d'en faire un empereur.
Vous allez dire que j'insiste lourdement, mais sa mère, donc Agrippine l'Ancienne, c'est une femme qui a une force de caractère et elle transmet cette force de caractère à sa fille.
Agrippine l'Ancienne est une femme absolument exceptionnelle. Elle est adorée par tous les Romains.
La femme de Germanicus.
La femme de Germanicus.
Qui était un empereur très aimé, en fait, du peuple de Rome.
Alors, qui n'était pas empereur, mais qui était général en chef. Il avait le titre d'imperator, qui signifie chef de guerre, mais il n'a jamais été Augustus, c'est-à-dire pas empereur. Néanmoins, sa femme, Agrippine l'Ancienne, est donc une princesse qui est adorée à Rome. Elle suit son mari dans toutes les batailles. Elle passe très longues années sur le Rhin, là où Germanicus travaille en quelque sorte, puisqu'il est le général des armées du Rhin. Et Agrippine l'Ancienne joue véritablement le rôle de mère des camps. C'est un titre qui va exister au IIe siècle, mais qui n'existe pas à l'époque d'Agrippine l'Ancienne, et c'est pourtant ce rôle qu'elle joue. Il faut imaginer une femme Romaine, très respectée, habillée de manière très digne, cheveux voilés probablement, en robe ample qui casse ses formes, et qui traverse les camps au milieu des soldats, comme si elle était l'impératrice elle-même. Elle donne des ordres, elle s'occupe des soldats malades, elle donne des vêtements, elle soigne parfois, elle donne des ordres. C'est véritablement une mère des camps et elle est extrêmement respectée. Pour la petite anecdote, alors qu'elle est enceinte d'Agrippine la jeune, c'est-à-dire l'atavisme familial par la suite, vous verrez, Germanicus est parti combattre Arminius au-delà du Rhin. Agrippine l'Ancienne est restée au camp avec une poignée de soldats. Certains sont malades, d'autres sont là juste pour garder le camp. Et la rumeur commence à courir que Germanicus a été défait et que les Germains vont arriver et détruire le camp romain. Les derniers soldats romains qui sont restés au camp veulent couper le pont de Xanthène qui relie le camp romain à l'autre rive du Rhin. Ils ont extrêmement peur, ils ne veulent pas se faire assassiner par les Germains qui sont d'abominables barbares qui ne savent même pas faire la guerre, qui prennent les gens à revers comme Teutobourg, une bataille que les Romains n'ont jamais digérée. Et alors que les soldats s'affolent, Agrippine, une femme enceinte qui plus est de 4 ou 5 mois à ce moment-là, va réussir à prendre le dessus sur ces militaires en furie qui sont terrorisés et à les empêcher de se livrer à un acte séditieux. Il faut imaginer le tempérament de cette femme qui prend le dessus sur des hommes en armes. Il faut vraiment se représenter cela.
Donc Agrippine, dans sa jeunesse, vit et voit ce monde.
Le monde des camps, elle l'a assez peu vu. Elle est née à Cologne, en Allemagne, effectivement, mais à l'âge de 2 ans, elle revient à Rome et ne passe pas ses jeunes années avec ses parents. Le monde des camps est quelque chose qui ne lui est pas extrêmement connu, mais néanmoins, ça fait partie des choses de son éducation dans le sens où on en parle et elle vit beaucoup avec le souvenir de son père Germanicus. Elle est l'une de ses glorieuses filles et elle garde avec elle l'aura de son père. On la respecte comme étant la fille de Germanicus.
Alors, en fait, son père, le père d'Agrippine, la jeune meurt assez, en fait, elle le connaît peu. Elle est davantage, on imagine, proche de sa mère. Et sa mère est en opposition avec Tibère, et c'est même une haine implacable entre les deux personnages. Donc là encore, elle baigne dans un milieu où, j'allais dire, il n'y a pas de bons sentiments, on est dans un monde de haine.
Exactement. Germanicus est mort dans des conditions assez troubles en Syrie. On pense qu'il a été empoisonné et sans doute Agrippine grandit-elle en pensant que son père a été assassiné sur les ordres de Tibère. Aujourd'hui, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, mais ce n'est pas impossible. Lorsque sa mère Agrippine l'Ancienne revient à Rome, elle vit avec sa mère et là, elle est le témoin depuis ses jeunes années d'enfant, de préadolescente. Elle voit sa mère qui lutte pour imposer l'un de ses deux fils aînés comme héritier de Tibère. Donc ses deux fils s'appellent Néron et Drusus. Et le petit Caligula, d'ailleurs, lui, n'est pas pressenti pour devenir successeur. Et elle voit sa mère qui se débat pour imposer ses fils, qui se débat comme une lionne. Vraiment, Agrippine, comme je vous l'ai dit, Agrippine l'Ancienne a un caractère bien trempé. Et elle assiste à une scène qui est extrêmement marquante. Elle doit avoir 8-10 ans à ce moment-là. Elle voit sa mère, Agrippine l'Ancienne, supplier Tibère de lui accorder le droit de se remarier. Évidemment, Agrippine l'Ancienne ne cherche pas à avoir un autre mariage d'amour, ce n'est absolument pas le cas. Elle recherche, dans un nouveau mariage, à avoir un soutien, un homme proche de Germanicus qui va la soutenir dans son combat pour imposer Néron ou Drusus comme successeur à Tibère. Évidemment, Tibère flaire le danger, il ne veut pas renforcer l'autorité publique qu'a déjà Agrippine l'Ancienne, et il lui refuse le droit au remariage, prétextant que, en restant une femme univira, c'est-à-dire une femme qui n'a connu qu'un seul homme, elle n'en sera que plus prestigieuse. Vous voyez que la lutte pour le pouvoir se fait extrêmement intime, très, très sournoise, et Agrippine la jeune assiste à ce moment dans la vie de sa mère qu'elle perçoit comme une véritable humiliation. Elle doit percevoir à ce moment-là à quel point une femme qui n'a pas de mari pour la soutenir est faible, car à Rome, c'est bien cela, on a beau être une femme puissante, on a besoin d'un homme pour aller dans la vie publique. Et ça, Agrippine s'en rend compte très vite et cette scène qu'elle relate à propos de sa mère, on la trouve dans ses mémoires. Ces mémoires qui ont disparu aujourd'hui, mais qui ont été lues par Tacite et Suétone. C'est pour ça que l'on connaît ce passage de sa vie. Mais on peut bien comprendre que c'est un moment extrêmement marquant où elle comprend la faiblesse des femmes.
Alors, vous parlez de son âge, hein, 10 ans à cette époque. Elle se marie 3 ans après. Et elle devient, et c'est assez marrant comme terme, elle devient ce qu'on appelle une matrone. Et la matrone, c'est absolument pas le sens que l'on donne aujourd'hui. C'est tout simplement la femme mariée. Voilà. Quelle est la frontière finalement entre l'âge mûr et cet âge si jeune où on se marie avec des hommes qui généralement sont bien plus âgés que soi?
La loi romaine permettait aux jeunes filles de se marier dès l'âge de 12 ans. Bon, évidemment, aujourd'hui, cela nous paraît extrêmement précoce, voire choquant, mais il ne faut pas regarder l'histoire avec nos yeux contemporains.
Bien sûr, c'est un anachronisme.
Dans l'Antiquité, on pensait effectivement qu'une fille que l'on mariait jeune, donc vierge, deviendrait une bonne épouse parce que son mari pourrait la modeler un petit peu selon ses besoins. Les Romains étaient extrêmement pragmatiques. Donc, lorsqu'Agrippine a l'âge de 12 ans, que légalement elle peut se marier, Tibère va lui offrir de se marier avec un homme qu'il désigne pour elle, qui est d'ailleurs un extrêmement bon parti, qui est Cneius Domitius Aenobarbus, un homme d'une très riche famille, noble famille romaine, mais beaucoup plus vieux qu'Agrippine et réputé extrêmement cruel. L'idée pour Tibère et d'offrir à la fille de Germanicus un beau mariage, de manière à ce que personne ne puisse lui reprocher de maltraiter les enfants de son neveu Germanicus, car Germanicus est le neveu de Tibère. Il lui propose un bon mariage, néanmoins un mariage qui est déjà beaucoup trop éloigné du cercle proche du pouvoir pour que d'éventuels enfants puissent un jour prétendre devenir les successeurs de Tibère. Car Tibère, lui, a un fils et il a bien l'intention de faire de son fils son héritier, ce qu'Auguste ne voulait pas, car Auguste avait obligé Tibère à adopter Germanicus, le père d'Agrippine, afin que celui-ci devienne le successeur officiel de Tibère. Germanicus étant mort, c'est Drusus III, le fils de Tibère, qui est censé hériter du pouvoir, et donc nous devrions avoir à ce moment-là une lignée purement claudienne qui se met en place. Ce qui ne sera pas le cas.
Caligula arrive au pouvoir. Caligula, c'est le frère d'Agrippine. Et il prend le contre-pied de ce que faisait Tibère, finalement, en ayant une sorte de... il soutient son entourage féminin.
Exactement. Étonnamment, Caligula va se rapprocher des femmes de sa famille. Mais encore une fois, il y a tout un contexte. Lorsque Tibère meurt, Caligula, qui a moins de 25 ans à ce moment-là, arrive au pouvoir. Tibère était détesté, Caligula rentre à Rome sous les vivats du peuple, on l'appelle mon poupon, mon chéri, le peuple l'adore, c'est le chouchou des Romains, c'est le fils de son père Germanicus, et à ce moment-là, Caligula n'a plus de famille à part ses 3 petites sœurs. Et il va être très proche de ses 3 petites sœurs. C'est la seule famille qui lui reste. Mais aussi, il y a chez Caligula quelques velléités égyptisantes. Le pouvoir des pharaons le fascine et il sait que dans le pays des pharaons, en Égypte, on pratique la stricte endogamie afin de conserver le pouvoir aux mains d'une même famille. Donc, plus il se rapproche de ses sœurs, plus il empêche des éléments extérieurs, des cousins plus ou moins éloignés, de réclamer le pouvoir. Donc, il va s'entourer de ses 3 sœurs qu'il va mettre à l'honneur dans le Moyen-Âge romain. C'est la première fois que l'on va voir officiellement apparaître des princesses romaines dans le Moyen-Âge. Et il demande au Sénat de prêter serment sur son nom, mais aussi sous celui de ses sœurs, ce qui est une véritable innovation, puisque cela donne une place dans la sphère publique à des princesses romaines.
Alors Agrippine, étrangement, met au monde un enfant 9 mois après la mort de Tibère, et cet enfant, c'est Néron. Alors, vous décrivez, ça m'a fait sourire parce que dans les remerciements, vous remerciez, je crois, un obstétricien.
Et, une sage-femme.
Une sage-femme, voilà. Et cette sage-femme, en fait, vous a aidé. Ce que j'aime beaucoup en histoire, c'est-à-dire essayer de voir aussi, par rapport aux autres spécialités scientifiques, l'apport que l'on peut, l'apport dont on bénéficie dans nos propres ouvrages. Et là, en fait, vous décrivez, hein, finalement, par le menu, c'est cet accouchement qui sera un accouchement légendaire, parce qu'on dira, au moment où vers l'aurore il venait au monde, il fut environné de rayons lumineux avant qu'on vît le soleil en projeter aucun. Cette phrase, en fait, elle fait partie de la légende autour de Néron.
Alors aujourd'hui, c'est typiquement ce qu'on appellerait du storytelling. Et qui est l'auteur de ce storytelling? C'est clairement Agrippine. Donc comme je vous l'ai dit, Agrippine est une femme qui rêve de pouvoir. Lorsque Caligula arrive au pouvoir, elle est l'aînée des trois sœurs. Donc elle n'est pas idiote, elle sait très bien que si elle met au monde un enfant, dans la mesure où Caligula n'est pas marié et n'a pas de fils, c'est son fils qui sera en première ligne pour hériter. Donc dès que Néron naît, elle met en place tout un système de légendes qu'elle va elle-même promouvoir pour faire en sorte que Néron soit vu comme l'élu des dieux. Cette légende du soleil qui frappe Néron avant même que les rayons ne touchent le sol est inspirée encore une fois des légendes d'Égypte avec le soleil qui vient toucher le dieu avant de toucher le sol. On voit ça dans les temples égyptiens d'ailleurs à certains moments de l'année où le soleil pénètre dans les temples et touche la statue du dieu en premier. Donc on voit toutes ces allégories qui se mettent en place et Agrippine qui très vite va faire en sorte que son fils devienne l'objet de ses désirs, c'est-à-dire l'empereur qui lui permettra de régner, mais aussi, à mon sens, un homme qui la mettra en sécurité. Elle se dit, et ça j'en suis vraiment convaincue, plus je suis haut dans cette famille, moins je suis en danger. Et là, elle a l'exemple effectivement de son arrière-grand-mère Livie, qui était intouchable, qui pouvait faire tout ce qu'elle voulait, quand bien même était-elle détestée par Tibère, cette femme était en sécurité, personne n'osait rien entreprendre contre elle.
Alors, une des constantes de votre ouvrage, hein, c'est que vous essayez vraiment de mettre de côté ce qui... Enfin, de présenter à la fois l'histoire et nos certitudes, et d'un autre côté, nos doutes. Et dans les doutes, dans les légendes précisément, dans ce que vous appelez le storytelling, et vous utilisez le conditionnel, il y a cette fameuse phrase qui aurait été prononcée après avoir visité des mages, les mages chaldéens, parce que on croit aux oracles, on croit aux signes du ciel, etc. Qu'il me tue, pourvu qu'il règne. C'est une phrase, là encore, sur laquelle nous n'avons pas de certitude.
Nous n'avons pas de certitude, mais ça en dit long sur Agrippine. Qu'elle l'ait dit ou pas, elle l'a certainement pensé. Je crois
c'est comme l'État, c'est moi, finalement. C'est une phrase que Louis XIV n'a pas prononcée, mais qui représente malgré tout le règne.
Exactement. Agrippine fait partie de cette cohorte de mères des Julio-Claudiens, comme l'était la sienne, comme l'était Livie, qui ont vraiment voulu pousser leur fils au pouvoir. Et c'était un but en soi pour elle, que son fils règne. Et je pense que c'est même, d'une certaine manière, une forme d'amour.
Alors, avançons dans le temps. Cette haine dans cette famille est assez incroyable. Agrippine s'allie avec Lépidus pour tuer son frère Caligula, ni plus ni moins, mais le complot échoue et elle est exilée.
Effectivement, comme je vous l'ai dit, Agrippine est une femme d'une extrême intelligence qui devait extrêmement bien analyser tout ce qui se passait autour d'elle. Elle voit que Caligula sombre dans une dérive tyrannique. Elle sait que cela est très peu apprécié à Rome et elle craint un coup d'État. Les coups d'État à Rome, ça peut arriver très facilement, hein, elle n'est pas dupe de cela. Or, elle sait bien que si jamais son frère est assassiné, sa propre vie et celle de son fils sont en danger. Donc, du haut de ses 23 ou 24 ans, elle décide de prendre les devants, de s'allier effectivement à son beau-frère Lépidus et de tenter d'assassiner Caligula. L'idée est très simple. Lépidus était le favori de Caligula, le mari de Drusilla, la sœur adorée de Caligula, et l'idée était de donner l'intérim du pouvoir à Lépidus, elle probablement de l'épouser, le temps que Néron soit assez grand pour prendre le pouvoir. Le problème, c'est qu'effectivement, le complot échoue lamentablement et Caligula fait immédiatement assassiner Lépidus et va forcer sa sœur Agrippine à se livrer à une cérémonie bien étrange. Le complot arrive à Lyon et Caligula va obliger sa sœur Agrippine à rentrer à Rome en procession en portant les cendres de Lépidus, exactement comme sa mère Agrippine l'Ancienne avait porté les cendres de Germanicus en procession depuis la Syrie jusqu'à Rome après sa mort. Donc il y a une espèce de répétition d'un événement marquant de l'enfance de Caligula et l'impossibilité pour Caligula d'assassiner ses propres sœurs qui malgré tout restent peut-être le seul ancrage sûr dans sa vie, sa seule famille. Il est extrêmement déçu, il aurait pu les tuer toutes les deux puisque Livilla la cadette est également impliquée, mais il décide de les exiler. Agrippine arrive en exil et là elle pense sa vie sociale, si ce n'est sa vie physique, terminée, il n'y a plus d'espoir pour elle.
Caligula est assassiné et Claude, l'oncle d'Agrippine, arrive au pouvoir. Claude, c'est un personnage particulier. Il y a ce personnage Messaline, qui est la dangereuse rivale. Donc, en fait, Agrippine revient sur le devant de la scène, mais elle a en quelque sorte cette opposante, Messaline. On va laisser de côté Messaline parce que c'est un personnage. Je recherche le terme exact. La putain impériale, voilà. Que vous utilisez, qui n'est pas de vous, hein, mais qui était utilisé à l'époque. Et chose étonnante, Agrippine épouse Claude, son oncle.
Effectivement, chose.
C'est une chose. Alors, ce qu'il y a d'étonnant, en fait, au fil de ma lecture, ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est de voir qu'il y a des règles, notamment des règles de l'inceste, etc. Et qui sont des choses complètement interdites, et on a l'impression qu'on est toujours dans la transgression, et que cette transgression est systématiquement avalisée par le Sénat, qui apporte une exception à la loi.
Ici, nous avons un cas très particulier d'exception à la loi. Après la mort de Messaline, on se rend compte encore une fois que les femmes sont terriblement dangereuses, puisque dès lors qu'elles ont du sang impérial, elles ont le pouvoir de légitimer un homme de leur choix. C'est ce qu'a tenté Messaline. Lorsqu'elle meurt, les affranchis impériaux vont proposer plusieurs solutions à Claude pour se remarier. Et finalement, leur choix va se porter sur Agrippine, pour une raison très simple. Agrippine, fille de Germanicus, grande princesse impériale, la plus grande princesse impériale, est une femme dangereuse. Elle a un potentiel séditieux. Si elle a envie de monter un complot contre Claude en faveur d'un autre homme, elle le peut de la même manière que Messaline. Donc comment neutraliser le potentiel séditieux d'Agrippine? C'est en l'épousant. En outre, Claude a une certaine affection pour cette petite nièce, qu'il faisait sauter sur ses genoux quand elle était petite. Mais néanmoins, c'est compliqué. Ils ont des rapports, donc les deux nièces, affectueux certainement, respectueux certainement. Je pense que l'un et l'autre respectent fortement l'intelligence de chacun. Claude connaît les qualités de sa nièce et Agrippine sait que son oncle est un homme intelligent et fin. Même s'il n'a pas cette réputation, il l'est dans les faits. Donc, pour neutraliser ce potentiel séditieux, Claude va choisir d'épouser sa nièce. Néanmoins, effectivement, c'est interdit par la loi. Donc, on va proposer un décret au Sénat qui, exceptionnellement, va autoriser les oncles paternels à épouser leur nièce. On élimine déjà d'emblée l'oncle paternel pour éviter qu'il y ait trop de choses qui se passent. C'est un exemple qui ne sera pas suivi à Rome. De toute manière, les mariages entre oncles et nièces n'auront vraiment pas beaucoup lieu. Et alors que Claude et Agrippine se marient, au même moment, on donne des sacrifices au bois sacré pour essayer de conjurer un petit peu le mauvais sort et d'apaiser les dieux qui n'aiment pas ces histoires d'inceste de toute manière. Ma théorie, même si je ne peux pas la prouver, mais qui est très probable, Agrippine et Claude n'ont pas eu d'enfants. Et quel besoin en avait-ils, puisque Claude avait un fils et Néron, et Agrippine avait un fils également de son côté. Il est très probable qu'ils n'aient même pas consommé ce mariage, puisque il y avait entre eux cette affection de neveu et nièce qui ne changeait pas en dépit de leur union. Et surtout, ils n'avaient aucune nécessité de mettre au monde un nouveau fils. Donc il est très probable qu'ils ne l'aient pas consommé ce mariage.
Mais c'est Agrippine qui a voulu ce mariage. Elle a, je parlais de manipulatrice tout à l'heure, elle a souhaité ce mariage pour atteindre cette puissance contre son ancienne rivale Messaline.
Alors je
pense... C'est difficile de dire. De l'affirmer.
On ne peut pas l'affirmer, ça c'est certain. Ce qui s'est passé lorsque Messaline est morte, il y a eu trois candidates. Une ancienne femme de Claude, Agrippine, et la troisième était la richissime Lollia Paulina, une femme de noble famille. Donc le choix d'Agrippine est le plus logique en termes de sécurité politique. Elle, je pense qu'elle a dû caresser cette idée d'épouser son oncle, mais voilà, ça restait un inceste. Il a fallu sans doute des discussions âpres impliquant Pallas, affranchi impérial de sa grand-mère Antonia, très proche de Claude, très proche d'Agrippine. Ils ont certainement dû parlementer, échanger, se dire qu'elle était le meilleur parti, mais comment faire pour contrecarrer ce problème d'inceste ? Qui est à l'initiative de cette idée ? Ça, nous ne le savons pas. Mais en tous les cas, il y a dû avoir des discussions secrètes entre ces trois personnages pour savoir si on pouvait envisager ce mariage qui était choquant aux yeux des Romains, mais utile, donc accepté.
Est-ce qu'elle n'est pas l'apogée de sa puissance, finalement, plus qu'au moment où elle deviendra la mère de l'empereur Néron ?
Disons qu'elle est presque à l'apogée de sa puissance.
Parce que l'apogée de sa puissance, pour elle, c'était le fait de se dire « j'ai mis sur, non pas le trône, mais en tous les cas, j'ai porté mon fils à la plus haute charge de l'Empire ». C'était ça pour elle, l'apogée de la puissance ?
L'apogée de la puissance, pour elle, c'était être mère d'empereur. C'est-à-dire d'être la femme la plus puissante de l'Empire. Et donc cet état, elle l'atteint uniquement lorsque Néron arrive au pouvoir. Cependant, déjà à l'époque de Claude, c'est une femme extrêmement puissante. Tacite le dit, personne avant elle n'a été petite fille, nièce, sœur, épouse, puis mère d'empereur. Personne à part elle, elle est vraiment au cœur du système des Julio-Claudiens. C'est une femme fascinante comme on peut le voir. Elle aidait Claude, c'était un véritable soutien politique, c'était son adjoint. C'est exactement le genre de femme qu'on aimerait voir aujourd'hui à l'Élysée en soutien d'un nouveau président, par exemple. C'était une femme puissante qui conseillait Claude, qui donnait ses avis, qui manigançait en politique quand c'était utile. C'est une femme aussi qui a révolutionné la place de l'impératrice dans la mesure où elle est la première à avoir porté le titre d'Augusta du vivant de son mari. Et elle se faisait saluer avec les mêmes égards que Claude lorsqu'on la rencontrait. Elle s'est imposée comme la partie féminine du pouvoir impérial. Mais elle en voulait plus parce qu'une femme, on peut toujours la répudier, on ne peut pas répudier une mère.
Oui, vous décrivez à la fois les titres, les privilèges et les symboles de ce pouvoir, notamment la chlamyde, le manteau grec porté uniquement par les hommes.
Alors ça, c'est un épisode absolument incroyable. Lors d'une grande fête au lac Fucin, on donne une nomachie. Elle apparaît...
Une nomachie ?
Une nomachie, c'est un concours naval. Elle apparaît dans la tribune impériale avec une chlamyde en fil d'or, donc un manteau militaire qui n'est porté que par les hommes, mais en fil d'or, donc d'apparat. Il faut imaginer à quel point cela pouvait être choquant à cette époque-là. D'une part, qu'elle récupère un attribut masculin, et d'autre part, qu'elle en fasse un espèce d'étalage de luxe incroyable, avec ce côté brillant. Donc imaginez à ce moment-là, sous le soleil italien, une femme en chlamyde d'or avec le soleil qui joue sur ce tissu incroyable, et à côté d'elle, Claude d'un côté et Néron de l'autre, habillé en militaire. Elle apparaît comme étant le chef de l'État romain et les deux autres sont abaissés au rang de lieutenant.
Est-ce que l'on sait si c'est elle qui a commandité la mort de Claude ?
C'est plus que probable qu'elle l'ait organisée. Et c'est plus que probable qu'elle l'ait organisée avec l'aide de Sénèque et de Burrus, qui étaient impliqués dans cette affaire.
Alors, je ne connaissais pas du tout Sénèque, sinon le philosophe.
C'est le même.
Voilà, c'est le même. Et donc, c'est un personnage sombre, aussi sombre que son entourage. Donc, nous allons courir dans le temps. Donc, Claude meurt, l'oncle meurt, et c'est Néron qui est porté. Mais ça aurait pu être aussi le fils de Claude, hein, Britannicus, et Britannicus meurt également. Est-ce qu'on sait si c'est elle qui l'a fait tuer, ou au contraire, nous n'avons strictement aucun élément qui prouve la chose ?
Alors Agrippine, en tant que marâtre de Britannicus, avait très bien fait son travail. Elle s'était débrouillée pour l'isoler politiquement, qu'il n'ait aucun soutien et que Néron soit toujours mis en avant comme l'héritier de Claude. Britannicus, en outre, était plus jeune, n'avait aucun charisme, donc absolument pas dangereux. Néanmoins, il était intéressant pour Agrippine de le maintenir en vie comme un levier dont elle pouvait qu'elle pouvait utiliser pour faire pression sur Néron. Vous imaginez Agrippine comme une femme de tête. Je pense qu'elle a dû se dire que si Néron commençait à se rebeller, elle pouvait lui dire « C'est moi qui t'ai fait empereur, je peux aussi faire de Britannicus un empereur. »
Elle avait une forme d'affection pour lui, en tous les cas. Vous montrez tout de même...
Affection, je ne sais pas, mais sa mort l'a touchée, c'est certain. Quoi qu'il en soit, sur la mort de Britannicus, elle n'est pas responsable, c'est une évidence. Soit Britannicus est mort d'une rupture d'anévrisme due à ses problèmes d'épilepsie, puisqu'il était gravement épileptique et ce n'était pas le seul dans la famille des Julio-Claudiens, soit il est mort empoisonné à l'initiative de Néron, qui voulait se débarrasser de ce rival et de cet outil dans les mains de sa mère qui pouvait faire pression sur lui en l'utilisant.
Néron est empereur, quel rôle, enfin est-ce que d'ailleurs Agrippine peut avoir un rôle politique à proprement parler dans, au quotidien, à la fois dans le maintien de l'Empire, mais aussi dans la conception impériale du pouvoir, par exemple vis-à-vis du Sénat.
Alors, en théorie, Agrippine, en tant que femme, n'est censée avoir aucune velléité politique. Même pas des velléités, même pas des idées politiques. Sauf que dans les faits, les choses sont tout à fait différentes. Agrippine a une véritable conception du pouvoir. Elle respecte totalement cette idée de diarchie entre l'empereur et le Sénat, tout en voulant donner une place à l'impératrice comme lieutenant. C'est exactement ce qu'elle a fait du vivant de Claude. Cette place de lieutenant, elle veut la conserver avec Néron. Sauf qu'en réalité, elle veut être celle qui tire les ficelles et que Néron ne soit qu'une marionnette de son propre pouvoir et de sa propre vision politique. Lorsque Néron arrive au pouvoir, il a 17 ans, c'est un adolescent turbulent qui a envie de faire la fête comme tous les adolescents de toutes les époques. Donc pendant les premiers mois, c'est elle qui gouverne Rome. J'ai parlé dans un de mes articles notamment du gouvernement d'Agrippine, du principat d'Agrippine. Pendant 3 mois, elle règne sur Rome, elle fait frapper monnaie, sa légende apparaît au droit des monnaies, donc elle se prétend l'autorité et maîtrise, ce qui doit totalement déconcerter Sénèque qui devait en être malade. Et elle gouverne l'Empire, elle est la reine-mère, ce qu'on n'a jamais vu à Rome. Et les hommes de son entourage, qui sont pourtant les hommes qu'elle a promus pour s'appuyer sur eux pour le pouvoir, vivent très mal cet état de fait. Sénèque, le philosophe, Burrus, le militaire, qui occupe des postes très importants grâce à elle, ne supportent plus l'idée d'être placés sous les ordres d'une femme. Et comme cela les dégoûte, et je pense que le mot « dégoût » est... là tout à fait utilisé à bon escient, ils vont tenter de monter Néron contre sa mère pour remettre cette femme à sa juste place. Et une petite anecdote témoigne de la rébellion de Néron qui commence sous les ordres de Sénèque. Néron attend une ambassade d'Arménie à Rome et il doit monter sur une estrade pour recevoir cette ambassade et Agrippine s'apprête à monter sur l'estrade exactement comme elle l'aurait fait du temps de Claude. Or, Sénèque invite Néron à descendre de l'estrade pour saluer sa mère qui arrive en bas des marches et lui barrer le passage de manière à ce qu'elle ne monte pas sur l'estrade et qu'elle ne se montre pas à l'égal de l'empereur, qu'elle reste en bas à sa place de femme. Et cette scène est le début de la rébellion de Néron impulsée par Sénèque.
Alors il y a aussi le rôle, nous n'avons pas parlé d'Acté, qui était une femme vers laquelle Néron a jeté son dévolu. Mais il y a aussi Poppée, qui deviendra finalement la rivale d'Agrippine. Et Néron est fou, amoureux de Poppée. Ça nous permet de voir aussi et de détruire finalement cette légende sur les soi-disant rapports sexuels entre Néron et sa mère. Vous affirmez, aux côtés de beaucoup d'historiens, qu'il n'y a strictement aucune preuve de cette idée, de ces actes.
Effectivement, plusieurs sources romaines reprochent à Agrippine d'avoir tenté de séduire son fils et d'avoir couché avec lui pour garder son emprise sur lui. Il faut garder à l'esprit qu'à Rome, lorsqu'on veut détruire une réputation, on passe par l'attaque à caractère sexuel. C'est aussi simple que ça et c'est extrêmement efficace. Or, j'ai effectivement approfondi mes recherches là-dessus, j'ai questionné beaucoup de psychologues, j'ai lu beaucoup d'ouvrages de psychologie, qui est un nouveau moyen de mettre un peu de lumière sur des points obscurs de l'histoire, et Agrippine a clairement un profil de mère dominatrice et castratrice, de femme froide, c'est-à-dire exactement le profil à l'antipode de la mère incestueuse. Elle a pu tenter d'être un peu plus sympathique, un peu plus affectueuse, mais ce type de femme n'est pas une mère incestueuse. Donc, je n'y crois absolument pas une seule seconde, c'est seulement une attaque qui est née d'ailleurs bien après la mort d'Agrippine et qui a commencé au moment de la disgrâce de Néron. C'était vraiment pour dire que Néron et Agrippine étaient des êtres abominables puisqu'ils pratiquaient l'inceste entre eux et qu'elle n'avait même pas de scrupule de coucher avec son propre fils pour avoir une emprise sur lui. C'est faux, elle a dû utiliser d'autres moyens, mais pas celui-là.
Mmh. Alors, vous dites, hein, vous reprenez la... l'image d'Icare, hein, qui approche du soleil et qui tombe. Donc, elle vit une forme de, au fur et à mesure, de déchéance. Malgré tout, Néron est obsédé par sa mère et jusqu'à un point où il... jusqu'au matricide, en fait. Quel est... est-ce que ce n'est pas ce matricide qui fait l'unicité du sort de cette femme?
C'est l'aboutissement d'un trop beau rêve, quelque part. Agrippine a transgressé toutes les règles de son monde en étant femme et en voulant participer au gouvernement.
C'est la première féministe de l'histoire.
On pourrait dire ça de manière un petit peu malicieuse. Elle n'est pas féministe dans le sens où le sort des femmes l'indifférait, mais son propre sort, elle lui était important à elle. C'est plutôt une femme qui n'a pas voulu être arrêtée dans ses ambitions parce qu'elle était une femme. Et en cela, on peut dire peut-être que c'est une pionnière du féminisme, ou plutôt que toutes les femmes aujourd'hui devraient penser comme ça, peut-être, pour prendre le problème à rebours. Bref, effectivement, Néron continue à vivre sous l'emprise psychologique de sa mère. Il a beau l'éloigner géographiquement de lui, il continue à être terrorisé par cette femme qui l'étouffe mentalement. Encore une fois, j'ai été questionnée des psychologues à ce sujet, et le matricide n'est possible que dans la mesure où l'enfant va mettre en jeu sa survie psychique. Il ne pouvait plus vivre avec Agrippine vivante. C'est pour ça qu'il en arrive à son projet de matricide qu'il met en place et qu'il va exécuter, car c'est le seul moyen pour lui de s'émanciper du poids psychologique de cette femme.
Donc là, ça va se faire en deux temps. Il y a d'abord l'épisode absolument incroyable du bateau, et finalement elle sera tuée d'un coup de glaive.
Exactement. Alors, ma théorie est que l'histoire du bateau est ce qu'on appellerait aujourd'hui dans le journalisme de l'intox, et une très belle intox inventée par Sénèque.
Parce qu'en fait, cette histoire, encore une fois, est complètement délirante. Il y a un bateau qui part, c'est après une soirée, elle n'a aucun intérêt de repartir le soir même sur une île. Hein,
Ils sont dans la baie de Baïa, voilà. Et Agrippine, à la fin d'une soirée en l'honneur de Minerve, décide de rentrer chez elle, et Néron... Un peu éméché, Néron la raccompagne et lui propose un bateau pour rentrer chez elle. Qui prendrait un bateau qui passerait par la haute mer pour aller dans une résidence qui se trouve à 2 km à pied? Ça ne tient pas debout. Donc, selon l'histoire officielle, celle que Sénèque lui-même a envoyée par courrier spécial au Sénat, Agrippine aurait pris un bateau que lui aurait offert son fils. Le bateau se brise au milieu des flots, en haute mer, donc au milieu de la baie de Baïa. Elle tombe à l'eau. Son amie Acéronia Paula, qui a peur de se noyer, prétend être l'impératrice, demande à être sauvée. Les marins l'assomment à coups de rame, et donc Agrippine voit sa meilleure amie qui se noie devant elle pour s'être fait passer pour elle. Et là, Agrippine prend la fuite à la nage. Donc là, il suffit juste d'être pragmatique et de se poser la bonne question. Est-ce qu'une femme d'une quarantaine d'années peut-être en bonne forme et capable de nager plusieurs kilomètres en pleine nuit dans une eau à 14 degrés en étant un peu saoule et surtout en portant de lourds vêtements qui imbibée d'eau la traînerait vers le fond. Donc ça ne tient absolument pas debout, cette histoire. Ma théorie est que cette histoire a été créée par Sénèque pour justifier le meurtre d'Agrippine aux yeux du Sénat. Ce qui a dû se passer, plus vraisemblablement, c'est qu'Agrippine est rentrée chez elle, dans sa maison, et quelques heures plus tard, Néron a envoyé un sicaire pour l'assassiner. Elle a dû très bien comprendre ce qui lui arrivait. Elle a dû comprendre que l'état dans lequel était son fils justifiait ce meurtre. Elle se prête de plus ou moins bon gré au glaive de son assassin, car en femme de tête, en femme romaine, elle n'a pas peur de la mort. Et comme on ne peut pas dire au Sénat « Néron est un matricide », ça passerait pas, hein, faut pas exagérer quand même, et qu'à ce moment-là, Néron est quand même relativement apprécié, Sénèque invente cette histoire. Encore une fois, c'est du storytelling. On raconte un truc délirant. Agrippine survit au naufrage, elle aurait cru que son fils voulait l'assassiner, et pour se venger dans un élan d'impulsivité, elle envoie un de ses affranchis tuer Néron. L'affranchi est attrapé, le glaive à la main, et du coup, Agrippine, de dépit, face à son geste fou, décide de se suicider elle-même. Car c'est ça la version officielle qui est envoyée au Sénat, une version que personne ne croit, mais que personne ne conteste, parce que finalement, personne n'aimait Agrippine à ce moment à Rome, à part quelques amis proches qui n'ont même pas pu la défendre, sans quoi ils auraient risqué de perdre la tête eux aussi. Et il faut attendre la mort de Néron pour qu'on commence un peu à reparler de cette affaire et à montrer que Néron est réellement un matricide.
Alors, vous parliez tout à l'heure d'Agrippine comme une femme castratrice, morte, Néron se permet tout et fait tout et en devient fou, comme si, et c'est ça le paradoxe, c'est comme si Agrippine avait été une sorte de limite à son pouvoir.
Exactement. Agrippine est un verrou mental pour Néron. Elle l'empêche de sombrer dans tous les excès parce qu'elle garde sur lui cette emprise dont je vous parlais, cette autorité de mère extrêmement dominatrice. Néron est terrorisé par sa mère, sans quoi il n'aurait pas eu besoin de la tuer. Et de fait, lorsqu'elle meurt, Néron se sent enfin libre, libre de faire ce qu'il souhaite. Sénèque, lui aussi, est un autre verrou à sa manière, mais beaucoup moins puissant. Sénèque va se retirer petit à petit, va avoir de moins en moins d'influence sur son ancien élève, et Néron va sombrer dans ce qui va nous apparaître comme des dérives, mais en fait qui va être la pure expression de ses désirs, de sa vision du pouvoir, de son amour de l'art. C'est un empereur esthète, c'est un amoureux de la poésie, du chant, et il va vivre sa vie comme il l'entend. Mais quand on vit sa vie comme on l'entend, quand on est empereur et qu'on a un empire à ses pieds, forcément, ça prend des accents de mégalomanie.
Virginie, nous arrivons peu à peu au terme de cette émission. Je reviens dans les premières page de votre ouvrage, quand j'ai commencé ma lecture, donc je vous cite, elle était le fruit amer de sa lignée. Est-ce que le terme d'amer, au fond, n'est pas un peu exagéré dans la mesure où on a vu que c'était une femme qui se situait dans une lignée, qui avait des précédents? Nous parlions de Livie, nous avons parlé de Cléopâtre, nous avons parlé d'Agrippine l'Ancienne, qui étaient aussi des femmes de tête, des femmes de pouvoir. Est-ce qu'elle a été vraiment ce fruit amer?
Je ne voulais pas dire qu'elle était fruit amer dans le sens où elle était une femme amère, pas du tout, oui, mais dans le sens où elle était un petit peu le fruit pourri de cette dynastie finalement, dans le sens où elle était prête à tout pour arriver au pouvoir. Elle a tué, elle a manigancé des choses, elle a fait des complots.
Comme les autres.
Comme les autres, bien sûr, mais c'est l'atavisme familial. Elle est ce que son époque et sa famille ont fait d'elle. Pas quelqu'un de bien au sens de notre morale, à l'évidence, mais une femme exceptionnelle, probablement extrêmement résiliente, très forte, et qui suscite malgré tout pour moi l'admiration.
Eh bien, merci beaucoup, Virginie Giraud. Donc, je rappelle les références de votre ouvrage. Agrippine, sexe, crime et pouvoir dans la Rome impériale, un ouvrage paru aux éditions Talendier et dans la collection Texto à partir d'avril 2017. Les femmes et le sexe dans la Rome antique. Nous nous reverrons peut-être à cette occasion, Virginie.
Avec grand plaisir.
Je vous remercie beaucoup. Cette émission a été rendue possible grâce à Isabelle, que je remercie. À la technique, il y avait également Georges, fidèle Georges, que je remercie également. Et je vous remercie, vous aussi, chers auditeurs. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Grands Entretiens.